Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lilou et je suis actuellement en stage à Radio Pont. Aujourd'hui, je vais vous présenter la saga Harry Potter qui fête ses 20 ans. La saga Harry Potter est tout d'abord une suite de romans écrits par J.K. Rowling. Les livres seront par la suite adaptés au cinéma par Chris Columbus, qui réalisa les deux premiers volets. Les films Harry Potter ont été produits par David Heyman. Les acteurs principaux de cette série sont Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui jouent chacun respectivement Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Ma chronique sera basée sur chacun des résumés des 8 films et portera en plus sur des effets spéciaux choisis. Nous allons commencer par Harry Potter à l'école des sorciers. Tout commence lorsqu'un géant, du nom de Rubeus Hagrid, dépose Harry, nourrisson, au 4 Private Drive chez son oncle et sa tante, les Dursley. Suite au décès de ses parents, tués par un mage noir dont on ne doit pas prononcer le nom. Lors de ce meurtre, ce sorcier perd sa forme humaine et se transforme en esprit. De plus, le seul survivant de ces meurtres est Harry Potter, qui porte depuis, sur le front, une cicatrice en forme d'éclair. Harry est détesté de sa famille d'accueil qui le font dormir dans le placard, sous l'escalier. Le jour de ses 11 ans, Harry voit son existence bouleversée lorsqu'une infinité de lettres lui parviennent provenant d'une école de magie. Mais son oncle refuse qu'il les lise. De ce fait, les Dursley ainsi que Harry quittent le domicile pour se rendre dans un phare, loin de tout. Cependant, Hagrid les retrouve et apprend à Harry qu'il est admis à l'école des sorciers nommée Poudlard. Il lui laisse le choix de venir avec lui ou de rester avec cette famille odieuse. Comme attendu, Harry suit Hagrid. À Poudlard, Harry rencontre Ron Weasley et Hermione Granger, qui deviendront ses meilleurs amis. Lors de cette année, Harry apprend à voler en balai, jeter des sorts, combattre un troll. Il est même recruté dans le sport de cette école, le Quidditch. Harry se révèle un sorcier doué. Cependant, un mystère plane autour de la pierre philosophale, pierre dont le fameux mage noir veut s'emparer pour retrouver son véritable corps. Pour réussir à attraper cette pierre, avant le mage noir, Harry et ses amis sont obligés de passer par plusieurs épreuves. Ils vont devoir faire une partie d'échecs, mais version sorcier. Cela veut dire qu'ils peuvent être véritablement blessés, car ils prennent la place des pièces de l'échiquier. Maintenant, je vais vous expliquer comment a fait l'équipe artistique pour rendre vie à un jeu d'échecs. Ils ont construit un énorme échiquier avec des pièces géantes de près de 4 mètres. Les pièces étaient radiocommandées. De plus, quelques effets spéciaux numériques ont été ajoutés pour apporter un effet de magie lorsque les pions soldats prennent vie et tirent leurs épées. Après cette partie, Harry se retrouve dans une salle face au visage du mage noir. Je vais vous faire entendre un petit extrait de la partie d'échecs version sorcier.
Tu ne crois pas que cette partie va se passer comme aux échecs version sorcier, j'espère.
Toi, là-bas, va en D5.
Si, Hermione, je crois que ça va se passer. Exactement comme dans la version sorcier.
On va maintenant passer à Harry Potter et la Chambre des Secrets. Harry et ses amis font leur deuxième rentrée à Poudlard. Mais cette année ne s'annonce pas de tout repos. Une étrange malédiction s'abat sur les élèves. Entre les cours de potions magiques, les matchs de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets ? Car on suppose que celle-ci renferme une étrange créature nommée le basilic, serpent géant qui rôde à l'intérieur des canalisations de Poudlard et qui est peut-être à l'origine de cette malédiction. Pour créer ce serpent géant, l'atelier des créatures a réalisé un basilic de 8 mètres de long, pesant 1,5 tonnes. La peau du basilic est en caoutchouc mousse et son squelette est fait d'aluminium. Pour animer cette créature pendant les plans où Harry combat le monstre avec l'épée de Godric Gryffondor, qui est le père fondateur de la maison Gryffondor, la production a eu recours à l'animation numérique et à un modèle animatronique de la tête et d'une partie du cou. Voici maintenant un extrait du combat entre Harry et le basilic.
Le fourche-langue ne te sera d'aucun secours, il n'obéit qu'à moi.
«
vient ensuite le troisième volet de cette saga, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, réalisé par Alfonso Cuarón. Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, prison des sorciers, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Mais cette année est marquée par l'arrivée des gardiens d'Azkaban, créatures horribles qu'on nomme les Détraqueurs et qui recherchent Sirius Black. Au programme de cette année, des cours de divination, des sorties au village de Préolard, le dressage des hippogriffes et la découverte d'une carte magique, la carte du maraudeur. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace ? Maintenant, chers auditeurs, je vais vous décrire la façon dont l'équipe artistique a mis au point les Détraqueurs. Lors du tournage de Harry Potter 3, J.K. Rowling fait dire au professeur Lupin, qui est le professeur des défenses contre les forces du mal, « Les Détraqueurs comptent parmi les plus répugnantes créatures qu'on puisse trouver sur Terre. Ils infestent les lieux les plus sombres, les plus immondes, ils jouissent de la pourriture et du désespoir. » En cherchant à doter les Détraqueurs de mouvements uniques, l'équipe s'en remit au talent du marionnettiste américain Basil Twist, créateur d'un spectacle de marionnettes sous-marins. Le responsable de l'atelier des créatures dit « On a fait beaucoup de tests sous l'eau avec des marionnettes de différentes tailles, en les filmant de face ou de dos et à différentes vitesses. Mais il était très difficile de reproduire ces mouvements. On obtenait un beau mouvement et un aspect étrange et on se rendait compte qu'on ne pourrait pas le refaire. » Finalement, la production dut se résoudre à recourir aux images de synthèse. Le résultat reste incroyable. Maintenant, nous allons écouter les Détraqueurs. Place maintenant au quatrième volet de cette saga, Harry Potter et la Coupe de Feu, réalisé par Mike Newell. Juste avant d'assister à la Coupe du Monde de Quidditch, Harry Potter fait un rêve étrange dans lequel il est témoin du meurtre d'un vieux jardinier moldu, nom donné aux personnes qui ne sont pas sorciers, par Lord Voldemort, alors que le jardinier surprenait une conversation au sujet de Harry. Au camping de la Coupe du Monde, juste après le match, des mangemorts, serviteurs de Lord Voldemort, font irruption en pleine nuit et provoquent la panique parmi les supporters en faisant apparaître la marque des ténèbres dans le ciel et annonçant le retour du mage noir. Harry passe donc le reste des vacances d'été chez les Weasley, au terrier, sous haute surveillance. Il entame alors une nouvelle année à Poudlard, annoncée comme une véritable année de compétition. En effet, l'école accueille exceptionnellement un grand événement, le tournoi des trois sorciers. À cette occasion, Poudlard reçoit également les délégations de deux autres écoles de magie, celle de Beauxbatons et de Durmstrang. Contre toute attente, alors que les trois champions sont choisis par la Coupe de Feu, un deuxième champion de Poudlard est désigné, et il s'agit de Harry Potter. Le tournoi des trois sorciers comporte trois tâches. La première consiste à combattre un dragon, dont je vous détaillerai l'effet spécial tout à l'heure. La deuxième consiste, pour les champions, à retrouver quelque chose qui leur est cher au fond du lac noir. Et la troisième tâche consiste à traverser un labyrinthe pour retrouver la coupe du tournoi et être déclaré vainqueur. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lors de la première tâche, Harry Potter doit combattre le Magyar à pointe, dragon de 12 mètres de haut et dont les ailes ont une envergure de 20 mètres et qui est capable de souffler des flammes à une distance de 10 mètres. Pour la scène de la confrontation réelle avec le Magyar, le dragon a été animé par le département des effets numériques. À partir de là, il ne restait plus qu'à déterminer sa façon de bouger et à l'intégrer dans les plans filmés sur le plateau. Je vais maintenant vous passer un morceau de ce combat. Vient ensuite le cinquième volet de cette saga, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui a été réalisé par David Yest et qui fera ensuite les trois autres volets. Quelques semaines après la renaissance de Voldemort, Harry, Ron et Hermione font leur entrée en cinquième année à Poudlard. Cependant, l'école est de plus en plus contrôlée par le ministère de la magie, qui ne croit pas au retour du mage noir et fait en sorte de discréditer Albus Dumbledore, qui est le directeur actuel de l'école de Poudlard. La sous-secrétaire du ministère, Dolores Umbridge, est nommée grande inquisitrice de Poudlard et nouveau professeur des défenses contre les forces du mal. Elle instaure une forme de régime dictatorial à Poudlard, en interdisant aux élèves de s'exercer au sortilège de défense, autant que de répandre l'idée du retour de Voldemort. Hermione propose alors à Harry de créer l'armée de Dumbledore, qui est une association d'élèves clandestines dont le but est de se préparer aux dangers extérieurs. Cette armée s'entraîne dans la salle sur demande. La salle sur demande est le quartier général de l'armée de Dumbledore. Et voici l'un des sorts qu'ils utilisent.
Harry !
Expecto Patronum !
Ce sort sert à repousser les détraqueurs. Voici ce que dit Matthew Lewis, qui interprète Neville Londuba. Dans le livre, la salle était plutôt accueillante, avec des coussins et des étagères remplies de livres. Mais dans le film, il y a des miroirs partout et des grilles d'acier sur le sol. C'est un plateau qui a une vraie atmosphère. On dirait une salle de combat clandestine en plein Poudlard. Stuart Gregg, le directeur de l'atelier artistique, décrit cet espace comme neutre et vide, dont les seules caractéristiques, en dehors des étranges colonnes à demi suspendues, sont les miroirs. Il dit « Leurs reflets offraient des possibilités beaucoup plus intéressantes pour réaliser des plans photographiques. » Et c'était cohérent avec cette armée de jeunes gens, parce que ça les renvoyait à eux-mêmes. On s'écoute un extrait d'une scène culte entre Harry et un de ses professeurs nommé le professeur Rogue.
Vous devez résister. Préparez-vous. Les gilets de
Vient ensuite le sixième volet de cette saga, Harry Potter et le prince de 100 000. Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à faire sa rentrée en sixième année à Poudlard avec Ron et Hermione. Cependant, Albus Dumbledore vient en personne le chercher chez les Dursley. Il l'emmène voir Horace Slughorn, un ancien professeur de potions, pour demander à ce dernier de reprendre son poste. Slughorn accepte. À son retour à Poudlard, Harry récupère un livre de potions d'un certain prince de Sang-Mêlé, qui s'avère être le professeur Severus Rogue. Durant cette année, Harry rejoint régulièrement Dumbledore qui lui montre, dans la pancine, plusieurs souvenirs qui concernent le passé de Voldemort, connu sous le nom de Tom Jedusor. La pancine est un récipient en pierre à l'intérieur duquel un sorcier peut mettre ses souvenirs. Nous allons maintenant écouter un des passages dans le passé de Tom Jedusor.
Tu peux faire des choses, n'est-ce pas, Tom ? Que les autres enfants ne peuvent pas faire.
Je peux déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux sans que je les ai dressés. Je peux attirer des ennuis aux gens qui sont méchants avec moi. Leur faire du mal, si j'en ai envie.
Dans ses souvenirs, Harry apprend que Tom Jedusor s'intéresse aux Horcruxes. Ce sont des objets hautement maléfiques dans lesquels Voldemort a dissimulé une partie de son âme, s'assurant ainsi l'immortalité si son corps venait à être détruit. Un jour, Dumbledore propose à Harry de l'accompagner à la recherche d'un Horcrux dans une caverne. Sur place, les deux sorciers découvrent un médaillon au fond d'un bassin contenant une potion. Dumbledore et Harry sont alors attaqués par des Inferis qui sont des cadavres humains ensorcelés par un mage. À leur retour à Poudlard, ils découvrent au-dessus de l'école la marque des ténèbres. La réalisation de la caverne a été l'un des plus gros défis relevés par la production en réalisant le film. Comme la grotte devait mesurer 60 mètres de long, il était impossible de la construire en studio. L'équipe décida donc de créer un décor virtuel et de filmer les acteurs devant un fond vert, puis d'ajouter numériquement l'eau et les Inferis. L'ambiance était totalement menaçante. Place maintenant au septième film de cette saga, Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. Cette année, Harry, Ron et Hermione ne retournent pas à Poudlard et se lancent dans une mission périlleuse pour retracer et détruire les Horcruxes, clé de l'immortalité de Voldemort. Seuls et sans l'aide et la protection de leur professeur, les trois amis doivent plus que jamais compter les uns sur les autres. Mais les forces du mal sont parmi eux et menacent de semer la discorde. Pendant ce temps, dans le monde de la sorcellerie, le danger guette les ennemis du Seigneur des Ténèbres. Rien ne peut arrêter le début de cette guerre tant redoutée. L'armée de Mangemort de Voldemort parvient à prendre le contrôle du ministère de la magie et même de Poudlard, faisant régner la terreur et arrêtant tous ceux qui s'opposent à eux. Les Mangemort sont à la recherche d'un trophée d'une valeur inestimable pour leur maître, Harry Potter. La chasse à l'élu est ouverte car les disciples du Seigneur des Ténèbres ont reçu l'ordre de ramener Harry vivant. Le seul espoir d'Harry est de trouver les Horcruxes avant que Voldemort ne mette la main sur lui. En cherchant des indices, il découvre une vieille légende pratiquement tombée dans l'oubli, celle des Reliques de la Mort. Si cette légende se révélait vraie, elle pourrait conférer à Voldemort un pouvoir incommensurable. Harry ne sait pas que son avenir est tracé depuis le jour funeste où il est devenu le survivant. Il n'est plus un enfant et le moment approche où il devra accomplir la tâche pour laquelle on le prépare depuis son entrée à Poudlard. L'ultime combat contre Voldemort. Voici un extrait des Reliques de la Mort.
La baguette de Sureau. La plus puissante baguette jamais fabriquée. La pierre de résurrection. La cape d'invisibilité. Ensemble, elles forment les Reliques de la Mort. Ensemble, elles font de vous le maître de la mort.
Place maintenant à la seconde partie de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Voici maintenant le dernier volet de la saga. Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie. Harry, Ron et Hermione continuent leur quête consistant à trouver les Horcruxes de Voldemort, mais s'intéressent parallèlement aux Reliques de la Mort. Les Reliques de la Mort sont des artefacts magiques que la mort aurait offerts aux frères Peverell dans les contes de Beedle le Bard. Ces reliques réunissent trois objets, la baguette de Sureau, la pierre de résurrection, ainsi que la cape d'invisibilité. Après leur quête réussie, les trois amis retournent à Poudlard, mais l'école est en proie aux flammes et à la terreur. Une grande bataille s'ensuit entre les Mangemorts et les élèves et professeurs de l'école. Harry Potter livre l'ultime bataille contre Lord Voldemort. Je vais maintenant vous parler des effets spéciaux qui ont contribué à la création de la bataille de Poudlard. La bataille de Poudlard est une scène épique. Pour la réaliser, Stuart Gregg a redessiné le grand escalier afin qu'il soit plus massif pour accueillir les scènes de bataille. De plus, des milliers de faux décombres ont été éparpillés dans l'escalier et la cour. Chaque faux rocher a été recouvert de sable siliceux pour apporter de la texture. Grâce à la version numérique, David Yeast pouvait continuer à développer et mettre en œuvre de nouvelles idées. Dans cette séquence, bien que les effets visuels soient déterminants, il y a eu une masse de travail énorme, car il a fallu coordonner les cadrages et chorégraphier la bataille elle-même. La bataille de Poudlard est une scène extraordinaire et époustouflante. Voilà, c'est la fin de ma chronique, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir réussi à vous immerger dans le monde de Harry Potter, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas déjà. Je vous souhaite une bonne journée à tous sur Radio Pont.